Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, du lundi au vendredi, entre 18h20 et 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, faut-il en finir avec les grandes expositions? Ce soir commencent les trois dernières journées de la grande exposition Léonard de Vinci à Paris au Louvre. Une exposition qui a nécessité des trésors de diplomatie, on le sait, et remporté un immense succès public. Cependant, le coût de transport des œuvres, l'augmentation des frais d'assurance, la multiplication de ce type d'exposition populaire, fait dire à certains qu'il sera de plus en plus difficile de mettre en place ce type de grands événements artistiques. Le temps du débat se demande donc ce soir si ce succès n'est pas un des derniers, avec quatre invités. Benoît Decron est avec nous au téléphone. Il est conservateur et directeur des musées du Grand Rodez et en particulier du musée Soulages. Yves Wynquin est ancien directeur du musée des arts et métiers à Paris. Il est auteur chez MKF d'un livre qui vient tout juste de sortir, Réinventer les musées. Jérôme Gliesenstein est professeur au département des arts plastiques à Paris 8, spécialiste des musées et des expositions. Et avec nous depuis France Bleu Cotentin à Cherbourg, Dominique de Fonréau. Elle est directrice de la médiation et de la programmation du musée du Louvre.
Exposition exceptionnelle, dispositif exceptionnel, hein. C'est simplement la volonté à la fois de remercier le public pour sa fidélité, hein. Et au-delà de la fréquentation et du chiffre, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher des publics qui ne vont pas ou peu au musée. Et c'est vrai que en offrant cette expérience particulière la nuit, on espère aussi que d'autres personnes puissent venir au musée. Le musée est déjà largement, comme tous les musées nationaux, gratuit, hein. Plus de 40% de nos visiteurs ne payent pas. Je suis très heureux de cette générosité. Pour elle est mal connue, peu connue, donc c'est l'occasion aussi de la faire connaître, de dire que le Louvre est le musée pour tous et que tout le monde peut venir. Donc il y aura ces trois nuits un peu exceptionnelles, une expérience à vivre au musée.
Dominique de Fonréau, bonsoir.
Laurentin.
Vous avez reconnu évidemment votre président directeur du musée du Louvre, Jean-Luc Martinez, qui sur France Info annonçait les trois nocturnes pour la fin de l'exposition Léonard de Vinci. Donc, et les 30 000 places sont parties en quelques heures. Ça commence donc ce soir. Un premier bilan peut-être de cette exposition Léonard de Vinci, avant de dire qu'elle serait peut-être la dernière des grandes expositions. Il faut peut-être dire en quoi c'est une très grande exposition, justement, Dominique de Fonréau.
J'espère qu'elle ne sera pas la dernière, mais je crois que c'est une très grande exposition parce qu'elle est aussi fondée sur un travail scientifique de très grande qualité, hein, qui s'est mis en œuvre depuis 10 ans, puisque les deux commissaires travaillent depuis 10 ans sur un projet comme celui-là, donc c'est important à souligner. Et puis elle est aussi le fruit d'une réflexion autour du public, autour de la manière de l'accueillir, que ce soit en termes de réservation, mais aussi en termes de médiation. On a mis en œuvre autour de l'exposition Léonard de Vinci, une programmation, une médiation très riche, destinée à tous les publics. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que déjà, on peut dire que c'est un succès populaire et je m'en réjouis beaucoup.
Alors, un succès populaire, c'est aussi compté en chiffres. Et c'est souvent comme cela qu'on aborde justement ces questions de succès dans les musées, des millions d'entrées par an ou des centaines de milliers d'entrées pour une exposition en particulier. Est-ce que cela, c'est nouveau? Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que depuis 30 ou 40 ans, on vit sous ce régime justement du chiffre, ou est-ce que c'est autre chose qui est à l'œuvre quand on parle de très grandes expositions, Dominique de Fonréau?
J'allais dire les deux. Et évidemment, la donnée chiffrée est toujours une donnée qui semble factuelle, qui est factuelle, et puis qui pourrait sembler aussi complètement objective. Donc, elle est importante, mais elle peut pas être la seule. Et en tous les cas, je crois pour nous, elle ne suffit pas. Une très grande exposition, c'est aussi une exposition qui fait un bilan de l'état de la recherche et de la connaissance, et puis qui trouve son public. Et d'ailleurs, un des signes, c'est que parfois, il y a des expositions qui sont annoncés comme des expositions à succès et qui ne le sont pas, et en revanche des expositions dont on n'était pas sûr du succès et qui le deviennent. Donc je pense que c'est aussi une rencontre avec le public, et avant tout une rencontre avec le public. Je crois que c'est un point essentiel à souligner.
Benoît Decron, vous êtes avec nous au téléphone depuis Rodez, où vous dirigez les musées du Grand Rodez et en particulier le musée Soulages. Alors évidemment, on parle souvent, quand on parle de très grandes expositions, des expositions qui se tiennent dans des villes capitales, mais il faut dire que pour un musée comme le vôtre, comme le musée Soulages, eh bien, une grande exposition, c'est important aussi pour faire connaître l'institution, pour faire venir des gens qui peut-être reviendront ensuite voir la collection principale.
C'est évident que les musées sont Musée Soulages en particulier, c'est un musée qui compte beaucoup sur sa saison d'été et que nous avons besoin effectivement de d'événements de grande qualité. Alors évidemment, on est dans un cas de figure complètement différent du musée du Louvre, mais quand on fait une exposition, quand on réfléchit aux expositions, bien entendu, on essaye de faire des choses avec un budget et on est évidemment complètement lié aux résultats évidemment de ces expositions.
Vous voulez dire que il y a toujours cette question à se poser de savoir si l'investissement que l'on va faire pour un musée comme le musée Soulages, c'est un investissement qui va drainer du public et donc peut-être des catalogues vendus, peut-être des entrées, etc. Et donc qui, d'une certaine façon, est un pari sur l'avenir. Donc il faut peut-être parier sur des grands noms, sur des grandes figures pour pouvoir drainer un Rodez, non seulement sur le nom de Soulages, mais un nouveau public qui viendrait pour l'exposition d'été.
Un musée, c'est un petit peu comme une voiture hybride, c'est-à-dire vous avez un moteur thermique qui est les collections permanentes, et puis vous avez un système électrique, et on passe de l'un à l'autre. C'est un peu comme ça, d'ailleurs, que Pierre Soulages a voulu que ce musée soit conçu. Alors, bien entendu, sans pour autant être mercantile, il est très important pour nous de réussir nos expositions d'été, parce que sur, par exemple, 140 000 visiteurs en moyenne par an, dans une ville de 24 000 habitants, on a à peu près 90 000 visiteurs, en gros, de la mi-juin jusqu'au 1er novembre. Mmh. Donc, ça serait un petit peu faux cul de dire qu'on n'est pas intéressé par cette fréquentation. Mais j'insiste sur le fait que c'est important de concilier, comme l'a dit Madame de Font-Réau, à la fois la qualité et, je dirais, l'exploitation d'un lieu culturel.
Yves Wincain, vous avez dirigé pendant 4 ans le musée des arts et métiers à Paris. Vous êtes anthropologue de formation. Vous avez travaillé donc à une réflexion en général sur l'anthropologie dans nos sociétés. Et puis, vous êtes l'auteur d'un livre qui vient tout juste de sortir aux éditions MKF qui s'intitule « Réinventer les musées », une sorte de jeu, pourrait-on dire. Vous avez pris au sérieux un discours de Chris Dercon, donc ancien dirigeant de la Tate Moderne et actuel dirigeant de la Réunion des musées nationaux. Vous l'avez pris au sérieux. Lui, il disait il faut d'une certaine façon réinventer le musée, il faut faire des nouveaux rituels. Et vous vous êtes amusé à cette question des rituels en disant tout compte fait, pour faire venir un public nouveau, pour changer le public, pour pouvoir avoir du succès, il faut peut-être aussi sortir des anciens rituels du musée tels qu'ils sont instaurés depuis maintenant 2 siècles.
Oui, voilà, je crois que vous avez bien résumé l'argument. Quand j'ai découvert cette phrase, qui date de 2015, elle avait été rapportée par Michel Guérin, le journaliste du Monde, puisque Chris Dercon l'avait proposée lors d'un débat public. Et ce qui m'intéressait bien, c'était à la fois l'idée d'inviter les directeurs de musées à inventer de nouveaux rituels. Et là, bon, l'anthropologue que j'ai été plus longtemps d'ailleurs que directeur de musée s'était dit « Tiens, c'est curieux cette utilisation du mot rituel ». Et alors, deuxième point, c'était chez Chris Dercon l'idée qu'il s'agissait de faire vivre une expérience collective au public. Et dès que j'ai pris mes fonctions au Musée des Arts et Métiers en 2015, je me suis aperçu qu'effectivement, on avait de moins en moins de visiteurs solitaires. C'était toujours des expériences de groupe, des familles, des groupes scolaires bien sûr, ou d'autres groupes. Mais le visiteur qui se promène les bras derrière le dos et regarde les œuvres, c'était déjà en train de s'atténuer très très fort jusqu'à quasiment la disparition. Et je me suis dit, oui, il doit avoir raison Dercon, parce qu'il a quand même dirigé par exemple la Tate Moderne. Mmh. Donc il les a vus ces masses à Londres. Il les a vus ces masses assez compactes par moments. Et il a essayé d'en tirer le meilleur. Je vous laisse faire.
Et là, sur ce point, par exemple, Dominique de Font-Réau, en écoutant ce que vous avez fait autour de l'exposition Léonard, on peut se dire peut-être que l'exposition de nuit, la réservation à plusieurs, un groupe qui va se rendre à minuit, par exemple, samedi soir ou dimanche soir, du côté du Louvre, eh bien, ce groupe-là, il va vivre une expérience collective qui rompt avec la vision habituelle, soit du musée, soit de l'exposition.
Oui, c'est tout à fait vrai. Moi, je rejoins tout à fait ce que disait Yves Wincain par rapport à cet enjeu d'expérience et d'expérience collective. Ce qu'on voit, c'est que Aujourd'hui, il n'y a pas un public, il y a des publics et avec des attentes très diverses, hein, ce qui à la fois rend plus riche encore notre mission à nous dans les musées. Ça, c'est un point tout à fait évident. Et c'est vrai que la visite, au sens visite un peu passive, hein, telle qu'elle a pu se mettre en œuvre pendant longtemps, n'est peut-être plus forcément l'attente des visiteurs. Et c'est la raison pour laquelle, dans les projets qu'on met en œuvre, il y a des projets qui permettent aussi des ateliers. On a eu par exemple un magnifique atelier famille dans l'exposition Léonard le week-end dernier qui s'est très bien passé, où il y a aussi ce qu'on organise dans l'exposition permanente, hein, les nocturnes du samedi, tous les premiers samedis du mois, qui permettent aussi aux visiteurs de participer. Je crois qu'il y a aujourd'hui une volonté d'être présent au musée de la part des visiteurs et puis aussi de rappeler combien le musée aujourd'hui est un des dernier grand lieu de rassemblement et de rassemblement populaire, ce que je trouve très positif, évidemment.
Jérôme Glissenstein, vous êtes professeur au département art plastique de Paris 8. Vous travaillez depuis longtemps sur cette question du musée, de l'exposition, de l'art contemporain. Est-ce que c'est sous l'effet de l'art contemporain, et en particulier des expériences d'art contemporain, qu'on peut dire que, d'une certaine façon, les musées plus traditionnels, les musées des beaux-arts, par exemple, ont pu comprendre qu'il fallait aussi rajouter l'émotion qu'on peut avoir face à un Bill Viola, la façon de vivre une expérience collective lorsqu'on se trouve dans des œuvres de certains artistes contemporains qui ont des installations, par exemple, et que cela, cette question de l'émotion, est rentrée par le biais, alors qu'on s'adressait d'abord à la raison ou à une émotion individuelle fondée sur le stendhalisme du 19e siècle, par exemple.
Alors, effectivement, moi, je pense que le point de départ de cette transformation des musées, c'est que simplement le spectateur, le visiteur d'aujourd'hui n'est pas celui du 19e siècle. La société a changé et donc, aujourd'hui,
c'est-à-dire que Guy Debord est passé par là et que la société du spectacle
pas seulement
aussi.
La société du spectacle, bien sûr. Et la première chose qu'on peut dire, effectivement, c'est que le public d'aujourd'hui attend une forme de spectacle, et c'est ce qui fait le succès des initiatives comme celle de Culture Espace, comme l'Atelier des Lumières. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais la question aujourd'hui, c'est l'événementialisation, c'est comment faire non seulement de la visite au musée, la découverte d'œuvres, mais aussi une expérience, travailler sur l'expérience, sur l'événement.
Et l'expérience, c'est déjà de participer, par exemple, à 100 000, 200 000, 300 000, 1 million, comme pour l'Expo Toutankhamon, participer à un événement dont tout le monde parle. Ça fait partie de l'expérience.
Bien sûr, c'est très très important. Mais ça n'est pas récent. C'est quelque chose, le conformisme de la visite, c'est pas récent. Et effectivement...
Ce qui est récent, c'est la croissance des chiffres.
Ce qui est peut-être la médiatisation, la circulation sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Mais pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les usages actuels qui empruntent éventuellement à l'art contemporain, moi je pense que c'est tout à fait juste. On s'appuie beaucoup sur des notions issues de l'art contemporain, la performance, l'installation. On considère différemment la présentation des objets dans les musées. Mais on demande de plus en plus, on invite de plus en plus des artistes contemporains dans les musées, y compris dans les musées de société, dans les musées d'histoire, dans les musées de sciences,
au
Conservatoire des arts et métiers.
Et même Soulages se retrouve au Louvre, par exemple.
Exactement. Et le musée d'Orsay l'a pratiqué, le Louvre l'a pratiqué. Tous les musées, à un moment ou à un autre, ont fait appel à des artistes contemporains, sans doute avec l'idée de faire venir un autre public et engendrer de nouveaux usages.
Benoît Decron, vous êtes avec nous depuis Rodez, où vous dirigez le musée Soulages. Ces questions qui sont liées à ces grandes expositions sont aussi des questions aussi bêtement financières. Il faut à la fois faire venir du monde, je lisais, vendre des catalogues, mais il faut aussi peut-être s'organiser pour justement, dans un contexte de concurrence accrue entre les musées eux-mêmes, entre les musées publics et les musées privés, il faut s'organiser pour avoir les meilleures œuvres, les œuvres les plus intéressantes, pour avoir des œuvres qui vont faire aussi se déplacer le public, Benoît Decron.
Alors, pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit notre ami, je pense qu'effectivement, ce qui est très important pour nous, les dirigeants de musées, c'est de stimuler la visite et le visiteur. Alors bon, il n'en reste pas moins qu'il faut que les gens pénètrent dans le musée. Alors, bien entendu, quand on part sur un projet d'exposition d'été, on doit avoir des objectifs. Et l'objectif doit être à la fois l'excellence, la qualité scientifique et artistique, à la fois le côté complètement exceptionnel de l'exposition et que, bien entendu, on ne peut pas engager des sommes d'argent importantes pour les collectivités locales sur des projets qui ont déjà été réalisés il y a 4-5 ans dans les musées importants des environs. Donc c'est totalement inconscient de partir sur des projets quand on sait qu'ils ont déjà été réalisés. Donc c'est évident qu'il doit y avoir cette réflexion, mais d'une manière générale, entre conservateurs de musées, on s'entend quand même assez nettement et agréablement pour ne pas faire la même chose au même moment. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite angoisse quand on lance l'exposition d'été, parce que une fréquentation de 60 000, de 80 000, de 90 000, nous on est un musée maintenant en établissement public, eh ben ça a des conséquences bien sûr sur la vie de l'établissement.
Oui, néanmoins, on peut se féliciter souvent que Picasso ait autant produit, parce qu'on voit des expositions Picasso qui se déplacent et qui se déroulent un peu partout en même temps, parce que justement c'est aussi une façon d'attirer un grand nombre de personnes qui ne connaissent pas forcément l'art du XXe siècle et qui peut-être auront envie de voir, parce qu'ils sont en vacances, de voir des œuvres de Picasso. Yves Wynquin, vous évoquez dans votre livre Réinventer les musées, vous évoquez la multiplicité des possibilités, justement, de, en rêvant d'une certaine façon en tant que donc anthropologue et ancien directeur de musée, pour faire en sorte que le musée sorte de lui-même, par exemple en imaginant qu'on puisse aller faire une exposition dans une forêt, dites-vous par exemple, mais aussi qu'on puisse, à partir de ce moment-là, faire une visite active, que les personnes qui soient à l'intérieur de ce musée, qui sont les visiteurs, soient transformées en visiteurs actifs, etc. Tout cela pour que justement cette expérience dont parlait tout à l'heure Jérôme Gliessenstein soit quelque chose dont on se souvienne.
Oui. D'ailleurs, il y a un point d'interrogation, à réinventer les musées, point d'interrogation. C'était, je voulais un exercice très libre d'imagination. Évidemment, j'allais chercher des éléments que j'avais en tête, que je lisais, que j'avais même expérimenté, mais je ne voulais pas m'imposer trop de conditions, de budget, de sécurité. Ça, ce sera pour une étape ultérieure. Ce que je voulais montrer, c'est qu'il y a moyen de réinventer sans doute le musée, d'en faire un espace. Je ne dirais pas farfelu, même si c'est la première lecture qu'on pourrait faire quand on lit ces descriptions.
Non, c'est libre. C'est libre. C'est pas farfelu, c'est libre.
Oui, c'est libre. C'est très, voilà. J'y vais. Sans me retenir, sans m'auto-censurer. Et puis après, avoir décrit la scène, je décode, je dis filigrane. Voilà ce qui en était du filigrane qui sous-tendait toutes mes propositions. Vous parliez de la forêt. J'ai repris aussi, vous connaissez bien cette fameuse procession d'un musée new-yorkais à ses réserves.
De Francis Alice.
Bon, dans les années
2000.
Oui, voilà, 2000. Au début du 21e siècle. Et je me disais, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas réinventer cette procession? Là, on est bien dans le rituel, en faisant sortir peut-être pas des œuvres, parce que là, on va faire peur à tout le monde, mais des maquettes, mais du personnel et du public avec lui qui les suit. J'avais en tête aussi les expériences...
Comme une procession religieuse.
Un peu, oui, quand même. Il y a cette belle expression de Ducron à propos des pèlerinages sur la recharge sacrale. On recharge les objets.
Alors ça, c'est intéressant, mais il faut peut-être comprendre, Dominique de Fonréau, ce qui vous menace ou ce qui menace les grandes institutions dans ce domaine des grandes expositions. Quand on a préparé cette émission, beaucoup de gens nous ont dit, ben voilà, exposition Léonard, c'est peut-être la dernière de ce type-là, parce que réunir autant d'œuvres de Léonard dans le monde, c'est très rare, et donc on n'aura plus les moyens de le faire, on ne pourra plus le faire. Est-ce que vous pensez que c'est vrai d'abord, et surtout, qu'est-ce qui menace justement la réunion, la collecte, pourrait-on dire, des œuvres d'un grand artiste? On se souvient d'un article de Philippe Dagen disant, eh bien, quand on a fait une grande exposition Gauguin il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années, il y avait 130 ou 150 œuvres de Gauguin. Quand on en fait une aujourd'hui, il y en a plus que 50 ou 60 d'une certaine façon. C'est-à-dire cette impossibilité de réunir les mêmes œuvres au même endroit. Est-ce qu'on peut dire cela, Dominique de Fonréau?
D'abord, avant de parler de menaces, je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez sur le spectaculaire, parce que on voit par exemple que le succès actuel de l'exposition Léonard, ou le succès actuel aussi de l'exposition Soulages, hein, au Louvre aussi, ne se fonde pas sur le spectaculaire. Absolument. Mais se fonde l'une comme l'autre sur la rencontre avec l'œuvre, et aussi l'une comme l'autre sur la rencontre avec les acteurs et les acteurs du musée. Hein. C'est quelque chose dont on se rend compte, c'est que finalement il y a aussi une très grande attente de la part des visiteurs à à rencontrer celles et ceux qui travaillent au sein du musée. Ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment important et important à souligner. Ça me tenait à cœur de le dire.
Mais ce que je voulais dire à propos de Spectaculaire, c'est plutôt la comparaison avec ce qu'on appelle à Hollywood les blockbusters. C'est-à-dire, on dit d'ailleurs des expositions blockbusters. C'est-à-dire plus de 100 000, plus de 200 000, plus de 500 000visiteurs. Comme on peut dire, un film de Marvel, eh bien, ça fait plus de 10 millions de spectateurs.
Mais elles sont blockbusters parce qu'elles ont trouvé leur public. Comme d'ailleurs le film de Marvel. C'est parce qu'elles ont aussi trouvé leur public. Et ça on ne peut que s'en féliciter. La dernière, j'allais dire, je l'espère pas parce que quand on avait préparé l'émission, je vous l'ai dit, moi je crois beaucoup à l'exposition comme genre. Et je parle à la fois comme directrice de la programmation, mais aussi comme le conservateur et la commissaire que je suis. Je pense que c'est vraiment l'exposition qui permet aussi la confrontation entre œuvres venues de musées différents ou même venues du même musée mais installées de manière différente. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de très fructueux pour la pensée, très fructueux pour le plaisir, parce que faut le rappeler, les musées sont avant tout aussi des lieux de plaisir et depuis leur fondation. Donc je ne l'espère pas. Les menaces sont celles qui sont celles effectivement des coûts, des coûts notamment d'assurance ou de transport qui sont de plus en plus élevés, mais sur lesquels, alors évidemment côté Louvre, on a la chance d'avoir une certaine puissance à la fois et financière, mais aussi une puissance de prêt. Donc on peut aussi tenir ces éléments-là.
Puissance de prêt, ça veut dire que vous pouvez prêter des œuvres en contrepartie d'œuvres qui vous sont prêtées.
On peut aussi parfois prêter des œuvres, ou même quand on ne prête pas directement, on a aussi cette possibilité de savoir qu'on pourra prêter à une autre exposition, sans qu'il y ait forcément un prêté pour un rendu, mais qu'il y a ces échanges conjoints. En même temps, il y a aussi plein d'autres possibilités. On voit se développer des expositions, comme nous avons par exemple en ce moment l'exposition sur la figure de l'artiste dans Petite Galerie, où on présente des œuvres qui viennent de nos collections et qui sont mises en scène de façon différente. Ou le fait d'être lié avec un ou deux ou trois musées pour un projet qui permettent aussi de le mettre en œuvre. Et ça, c'est possible pour beaucoup de musées, y compris des musées de plus petite dimension. Donc je crois que le genre de l'exposition, je le crois pas menacé. Je pense que il est à remettre en perspective par rapport à ce que disait tout à l'heure Benoît sur la collection permanente, c'est-à-dire en lien avec la collection permanente, et c'est ce qu'on essaye de faire au Louvre, puisque au moment de l'exposition Léonard, on a aussi restauré la salle des États, qui est la salle de la Joconde, et on essaye de mettre en perspective à la fois notre collection permanente et ces expositions temporaires.
Jérôme Guissenfeld, vous évoquiez tout à l'heure, vous disiez, ça n'est pas d'aujourd'hui, cette question de du nombre de visites. Je vous propose d'écouter une archive de 1967. Évidemment, c'est l'exposition Toutankhamon et son temps.
Je suis très ému en voyant les trésors de l'antiquité de mon pays, éclatant d'une beauté toute fraîche dans cette ambiance faite du goût le plus sûr. C'est donc avec plaisir que je constate ici le resserrement des relations culturelles entre mon pays et le vôtre. Trouvons là, mes amis, un symbole merveilleux de l'universalité de la culture.
Il va de soi, monsieur le vice-premier ministre, que la France remercie votre pays,
France Culture,
pour avoir envoyé ici tous ces objets. C'est une marque d'amitié dont je parlerai tout à l'heure.
Le temps du débat.
Mais l'exposition même vient de m'étonner beaucoup, comme vous-même, car nous avons vu ces objets depuis longtemps au Caire.
Emmanuel Laurentin.
Mais enfin, nous ne les avions pas vus dans d'autres conditions.
Et nous les reverrons désormais au Caire après la tournée de l'exposition Toutankhamon, donc celle qui a tourné en France en 2019 avec 1,4 million de visiteurs en 6 mois et qui a battu donc le record de 1967, 1,240 000 visiteurs. On a reconnu André Malraux évidemment et Sarwat Okasha qui était vice-premier ministre égyptien chargé de la culture. C'est aussi cela, cette question de la grande exposition, c'est aussi un échange, c'est aussi du soft power diplomatique. On sait comment De Gaulle et Malraux avait joué sur la présence ou non de la Joconde au Japon. Tout cela, ça fait partie de cette grande exposition et de cette manie des grandes expositions, pourrait-on dire, Jérôme Guissenstein.
Oui, bien sûr, mais c'est intéressant d'entendre cette archive d'André Malraux au moment de l'exposition Toutankhamon, parce que on peut dire que le blockbuster, le genre de l'exposition blockbuster, toutes les expositions ne sont pas des blockbusters, mais c'est une forme d'exposition qui s'adresse au public le plus large et qui correspond effectivement à la politique d'André Malraux de démocratisation culturelle. Ça suit de très peu l'inauguration des Galeries nationales du Grand Palais, où vous avez eu justement une des premières expositions, c'était Tout en Camon, et la volonté de massifier l'expérience de la visite d'exposition, de faire des expositions pour un public qui n'est pas simplement le public choisi des élites parisiennes, mais qui peut être beaucoup plus large.
Et 50 ans plus tard, ça donne quoi? Ça donne ce qu'on connaît aujourd'hui.
Mais voilà, donc Malraux était un pionnier de l'exposition Blockbuster. Il y a eu un conservateur du Metropolitan Museum de New York des mêmes années, Thomas Messer, qui a eu exactement la même politique. Donc on peut dater très précisément le Blockbuster, ses expositions à 500 000 ou 1 million de visiteurs, de la fin des années 60.
Sur ce point, Yves Guinquin.
Moi, ce que je regrette alors, c'est qu'on se serve uniquement de cette variable-là, c'est-à-dire le chiffre, alors qu'il y en a d'autres. Nous, au Musée des Arts et Métiers, on avait une soixantaine de variables, mais on était parfaitement conscient que la seule qu'on écouterait, qu'on retiendrait, c'est combien de visiteurs par an, ou combien de visiteurs par exposition.
Ou combien de visiteurs en plus chaque année.
Par exemple. Et une mauvaise exposition, c'était autant, une bonne exposition, c'était autant. Ben non. Il suffirait peut-être de faire une corrélation entre le nombre de visiteurs et le temps resté dans l'exposition. Ça rendrait déjà l'analyse un poil plus sophistiquée, mais et ainsi de suite. Hein. Plus vous multipliez les variables d'appréciation, d'évaluation, plus vous obtenez une évaluation riche, qualitativement parlant. Mais voilà, je pense que toutes les politiques culturelles ou muséales aujourd'hui finissent, in fine, par reposer sur ce seul chiffre d'audience.
Benoît Decron, pour un musée comme le vôtre, le musée Soulages ou les musées du Grand Rodez, est-ce que il devient plus difficile, comme on le dit ou comme on le suppose depuis le début de cette émission, d'organiser des grandes expositions, d'obtenir des grands prêts, d'obtenir des œuvres difficiles à avoir parce qu'elles coûtent cher ou parce qu'elles sont assurées très cher, ou est-ce que on arrive toujours à négocier donc pour pouvoir organiser les expositions que l'on souhaite?
Alors, avant de répondre à cette question, juste vous dire que un des grands plaisirs que nous avons à travailler à Rodez, c'est d'accueillir des artistes de grande qualité et des œuvres de grande qualité. Par exemple, actuellement, nous accueillons au sein des œuvres de Soulages le prince Goudéa du musée du Louvre, avec la collaboration que nous avons avec le musée du Louvre. Alors, pour revenir à votre question, respecter le public, c'est déjà leur donner ce qu'il y a de mieux, ce qui est intéressant. Respecter le public, c'est leur donner des choses qu'ils ne trouvent pas en bas de chez eux quand ils descendent acheter leur journal. Donc c'est trouver des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et qu'ils n'auront pas l'occasion de voir. C'est un secret pour personne que les frais d'assurance, les frais de transport, de convoiement, on va dire sur un budget de, je sais pas, 500 000 euros, c'est en gros le budget d'une exposition d'été au musée Soulages, et c'est loin d'être rien, c'est même considérable pour nous, en tout cas en province. Et là-dessus, vous avez pratiquement 65-70% qui part en assurance, en transport et en convoiement. Donc évidemment, ça va devenir de plus en plus difficile, faire des demandes de prêt, on a toujours peur avant d'envoyer les courriers, ou même de passer un coup de téléphone.
Et sur ce point, Dominique de Fonréau, on peut dire aussi qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont entrés dans ce domaine des grandes expositions, des fondations privées, ce qui était peu le cas en France, même s'il y avait la fondation MACT en Provence. Mais néanmoins, on sait que aujourd'hui, il y a la fondation Pinault qui va ouvrir, la fondation LVMH, et que ces fondations-là disposent de très grands budgets qui sont peut-être plus lourds parfois que beaucoup de musées publics. Et donc, au bout du compte, eh bien, cela rend peut-être plus complexe ou plus cher l'organisation des grandes expositions, Dominique de Fonréau.
Je crois que ça nous oblige surtout à être plus inventifs. Et moi, j'aime bien cette idée de réinventer le musée aujourd'hui.
Par la concurrence, vous voulez dire, c'est cela?
Oui, non, mais la concurrence. D'abord, la concurrence entre musées, Dieu merci, on vend pas des biens matériels. Donc, d'une certaine manière, on peut très bien faire plusieurs expositions dans une même semaine ou dans un même mois. Donc, la concurrence est quand même relative. Hein. Dieu merci, il y a quand même aussi beaucoup d'émulation. On l'a vu à Paris hein, au cours de cette saison. Il y avait des expositions splendides, de Gréco au Grand Palais, Toulouse-Lautrec, aussi au Grand Palais, de Gaon. Orsay et j'en oublie, Bacon à Pompidou, et elles ont toutes bien marché. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas forcément dans la compétition immédiate. Non, je pense que ça nous invite à vraiment se poser la question de ce qu'est le musée. Nous la chance que l'on a effectivement au Louvre, c'est d'être à la fois une formidable collection permanente, hein, qui est vraiment une collection nationale à la disposition de tous, et la possibilité de faire des projets. Et je pense que c'est là où il faut qu'on invente aussi d'autres modes pour intéresser le public d'aujourd'hui. C'est aussi renouer. On parle de blockbusters aujourd'hui. On parlait pas de blockbusters au milieu du 19e siècle, mais les expositions universelles étaient fréquentées par des millions de personnes. Donc il y a eu quand même depuis longtemps cet intérêt-là, et cet intérêt qui se double à la fois, qui est à la fois celle de la rencontre avec l'œuvre et avec un lieu, mais qui est aussi cette idée aussi de faire partie d'une communauté qui s'y intéresse. Et ça, je trouve ça très fort.
Mais néanmoins, il y a cette question du commerce, c'est-à-dire pas simplement le doux commerce au sens du XVIIIe siècle, mais le commerce véritable des œuvres, pourrait-on dire, Dominique de Fauréon. C'est-à-dire qu'il y a des, disons que des institutions privées vont pouvoir acheter des œuvres, enfin les louer, alors que la vieille pratique des musées publics était d'échanger, justement, comme vous le disiez, de pouvoir échanger des œuvres.
Grand bien leur fasse, et nous continuerons à échanger et à inventer autre chose. Je ne crois pas. Non, honnêtement, sincèrement, je vois pas que ça puisse.
Je vois la sincérité dans votre voix, effectivement.
Voilà. Je pense vraiment que c'est à nous d'imaginer autre chose, de mettre en œuvre autre chose, et aussi d'inviter aussi le public au musée. Et je pense que ce qu'on fait là avec les nocturnes, c'est aussi inviter un très très grand nombre de personnes à venir assez spontanément. C'est ce qu'on fait aussi avec les nocturnes gratuites du samedi, c'est ce qu'on fait aussi avec des nocturnes famille du vendredi soir. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont à notre main et qui nous permettent aussi de lier les éléments. Et moi, je suis très contente que les acteurs se multiplient. Hein. On bénéficie aussi. Hein, l'exposition Léonard a bénéficié de l'aide de l'État. Hein. Je rappelais qu'elle a eu la garantie d'État qui a permis aussi de pouvoir payer une grande partie des assurances. Donc il y a encore beaucoup de choses qui permettent au musée de vivre, et je m'en réjouis beaucoup. Et Benoît a souligné à l'instant le partenariat qu'on a avec le musée Rodez, et on est très heureux de rendre possible ces projets.
Jérôme Glissenstein, il y a cette question-là, puis il y a aussi la multiplication des spectacles autour de l'art. Vous évoquiez tout à l'heure l'atelier des Lumières. On peut écouter cet extrait d'un reportage qui a été réalisé pour Soft Power sur France Culture par Zoé Sfez, une visite en réalité virtuelle de la pyramide de Khéops qui a été proposée à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine sur réservation. C'est jusqu'à la fin du mois de mars.
Nous sommes devant l'équipement que les utilisateurs de Scan Pyramids VR vont porter pendant toute l'expérience qui dure 45 minutes. C'est-à-dire un casque de réalité virtuelle et un sac à dos qui est en fait un ordinateur qu'ils vont porter pendant tout ce temps-là. On va se téléporter.
Je suis en Égypte et je reconnais...
Non, en Égypte, de nos jours, sauf qu'on fait 80 mètres de haut.
En fait, là, je marche autour de la pyramide, voire presque sur des habitations en Égypte. Il faut quand même accepter d'abandonner toute capacité de contrôle sur ce qu'on voit.
On a vraiment l'impression de...
Donc là, il y a le Caire à nos pieds.
Là, il y a le Caire.
Et dans notre casque, il y a le bruit de la ville.
Voilà, une autre type d'exposition, réalité virtuelle, Zoé Sfez pour Soft Power, c'était le 29 décembre dernier sur notre antenne. Jérôme Glissenstein, ça c'est une autre façon de voir l'art, et peut-être très différent de l'expérience classique, pourrait-on dire, du musée, de l'exposition telle qu'elle est née à la fin du 18e, au début du 19e siècle.
Alors, moi, contrairement à beaucoup de gens, je serais pas d'avis de condamner automatiquement l'expérience.
J'ai pas dit que je condamnais.
Non, mais l'expérience de l'atelier des Lumières ou les visites en réalité virtuelle des pyramides de Gizeh, je pense que d'abord ça correspond au monde dans lequel nous sommes. Et ça a quand même un avantage énorme. On a parlé d'argent jusqu'à présent, et reconstituer en images de synthèse les pyramides, ou bien faire une exposition à partir de Van Gogh, à partir d'œuvres de Van Gogh dans une sorte de montage audiovisuel, ça coûte quand même beaucoup moins cher que de faire une exposition avec les œuvres de Van Gogh en termes d'assurance et de déplacement d'œuvres. Donc finalement, il y a un bon côté, et puis il y a un succès public pour ces choses. Après, ce n'est pas le même type d'objet que l'exposition.
Et pas le même type d'expérience non plus.
C'est pas le même type d'expérience, c'est pas le même type d'objet, c'est pas le même type d'exigence, c'est pas le propos scientifique qu'a énoncé Dominique de Fonréau tout à l'heure, c'est autre chose. C'est une expérience, mais c'est autre chose.
Yves Wynquin ?
Oui, c'est une expérience, c'est autre chose. Et je crois que le musée, là, aujourd'hui, est en train justement d'explorer les différentes possibilités qui lui sont offertes, notamment depuis les nouvelles technologies. Et pourquoi pas, je serais d'accord avec vous. Ce n'est pas non plus comme si les musées... Il y avait une panique il y a quelques années des musées sans objets, oui, qui se virtualiseraient complètement. Non, on s'aperçoit qu'ils sont encore bien là avec toute leur matérialité et que les nouvelles technologies ajoutent des espaces nouveaux, ne supprime pas les précédents.
Et puis Dominique de Fonréau, d'une certaine façon, ça peut régler d'autres problèmes. On ne peut pas pousser les murs du Louvre, pas plus qu'on peut pousser les murs du Grand Palais, et même en ouvrant toutes les nuits pendant toute une durée de 5 ou 6 mois, ça sera difficile, effectivement. C'est difficile d'avoir plus de visiteurs encore que ce que vous avez. Donc il y a cette question de l'expérience de la visite, qui est aussi une expérience difficile quand on se retrouve bousculé, quand on a beaucoup trop de monde dans l'exposition pour pouvoir véritablement en profiter, Dominique de Fonréau.
Non, c'est très juste, et c'est la raison pour laquelle on a été très heureux de notre système de réservation pour Léonard, hein, qui a permis justement qu'il n'y ait pas une cohue. Je reviens sur cette idée de l'expérience virtuelle. On a mené autour de l'exposition Léonard une expérience virtuelle sur la Joconde. C'était la première fois qu'on le faisait. Et je pense important de souligner que là aussi, le contenu compte. Et les deux commissaires de l'exposition ont été très étroitement associés à cette conception. Et si elle fonctionne, parce qu'elle fonctionne très bien avec tous les publics, c'est aussi parce que il y a du contenu. Donc je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Par ailleurs, c'est un petit peu moins bon marché que ce qu'on imagine, mais ça c'est un autre souci peut-être. Non, ce que je voulais dire aussi, qu'évidemment cette exposition virtuelle que l'on a faite autour de la Joconde est aujourd'hui dans certaines microfolies en lien avec la Villette, et elle est disponible aussi par les applications sur smartphone. Donc c'est effectivement une manière d'étendre les éléments. C'est pas la même chose qu'avec les œuvres en direct, mais ça permet une autre manière d'explorer aussi les contenus et les contenus du musée. Et je trouve que c'est des expériences intéressantes à suivre. Je suis un peu plus réservée pour l'atelier des Lumières, pour moi, c'est plutôt du divertissement. Et peut-être un peu moins du contenu, mais le divertissement, ça peut être bien aussi.
Benoît Decron, lorsque vous organisez des expositions pour le musée Soulages, vous pensez justement à cette diversification possible ou qu'on fait le coût d'une exposition est tel que vous ne pouvez pas investir dans ces nouveaux médias électroniques qui font floresse un peu partout?
Vous avez dans votre question formulé la réponse. En fait, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile.
Ça arrive souvent.
Pour nous, c'est évident. Moi, je m'y oppose pas. Je trouve que le virtuel, ça peut être très intéressant. C'est un accompagnement. Mais je reste plus je suis dans ce monde des musées, plus je pense que le musée, c'est un peu comme à la veillée, quoi. C'est-à-dire, faut la chaleur de la voix, faut la visite par des gens qui sont incarnés, etc. Bon, il se trouve que j'ai été présent justement à l'exposition Léonard où il y avait donc un des commissaires qui expliquait. Alors évidemment, j'avais beaucoup de chance parce que j'étais parmi les happy few, mais je trouve que nous, dans les musées de province, on peut faire ce travail de médiation forcément plus facilement parce que il y a moins de fréquentation. Moi, je privilégierais toujours de toute façon. Je privilégierais toujours de toute façon la visite guidée avec la personne qui connaît, qui a une voix chaleureuse, qui présente et qui s'adapte à tous les publics à ce côté. Alors j'ai juste une petite expérience à vous donner.
Très vite, très très brille, on arrive au bout.
Le musée Soulages, on avait des androïdes et tout le monde, c'est-à-dire que le type qui arrivait au musée, il troquait son androïde pour un nouvel androïde à l'intérieur du musée. On est revenu à la bonne vieille paluche et les gens sont beaucoup plus contents. Voilà.
Mais un dernier mot,
le vieux machin là, mais c'est ce que je crois.
On croit en tous les cas que vous allez avoir une exposition cet été. Vous nous avez expliqué combien c'était important. En deux mots, c'est quoi l'exposition de cet été au musée Rodez?
Au musée Soulages.
Au Soulages.
Au musée Soulages, on fait une exposition qui s'appelle Fernand Léger, la vie à bras le corps. Et on avait hésité, la vie en bras de chemise, c'était pas mal aussi. Et on va présenter une quarantaine, c'est une cinquantaine.
Toujours la paluche, on a compris. Ouais. Mais, merci à vous, merci voilà. À vous, Benoît Decron, merci à Dominique de Fonréau et à nos confrères de France Bleu Cotentin qui l'ont accueilli dans les studios de Strasbourg. Merci à vous, Yvon Aquin. Je rappelle que votre livre s'intitule Réinventer les musées, point d'interrogation à MKF. Et puis, merci à vous, Jérôme Gliesenstein. Toute cette émission était préparée comme d'habitude par Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richard, Rémi Bay et Manon Prissé, Ludovic Auger étaient à la technique et à la réalisation Alexandre Manzanares.